Ça commence mauditement mal, chaud là. Je pensais qu'on était mercredi. Ça fait mal.
Désolée.
Bon mardi, 14 avril. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Audrey Pinchot. Denis Gravel, qui est absent pour la journée, qui sera de retour demain. Évidemment, c'est une partie de l'équipe habituelle, tiens, qui est là. Je m'appelle Audrey Véro.
La majorité.
Véro, qui est là aussi jusqu'à 18h. Puis on a comme une nouvelle alliée qu'on aime beaucoup là, quand Denis s'en va.
Elle a fait dire qu'à deux tiers, on aura un pays.
C'est 50% plus un pays, mais c'est pas grave.
On l'aurait remarqué à deux tiers, c'est sûr. Oui. Antonine Iaccarini qui est présente également jusqu'à 18h. Gros line-up de show aujourd'hui, grosse émission. On va jaser à plein de monde, plein de sujets intéressants, plein de bébelles à vous raconter. Peut-être commencer par vous dire rapidement, 8 degrés présentement à Québec, alternance soleil-nuage. Quoi que je regarde dehors, je vois pas bien le soleil en ce moment.
Je l'ai pas vu de la journée, moi.
Moins pire qu'hier, au moins, il nous mouille pas sa tête. On a...
T'as peu. Attention. Je comprends la pluie d'hier, mais le compte... Ce matin, de voir du gazon presque partout, je l'ai pris la pluie d'hier.
Ouais, non, t'as raison. Dans ce sens-là, c'est vrai.
En l'espace de 3 jours, on est passé de « voyons si bol, l'hiver va-tu finir » à « ah, c'est le printemps, pour commencer à travailler dehors ».
J'ai l'impression que ça, tu vois, moi, je l'ai comme vu venir un peu en fin de semaine. On avait des super belles températures, puis chez nous, la façon que le soleil plombe, il y en avait quasiment déjà plus de neige.
Ce qui fait en sorte que... Direction sud, sud-ouest. Là.
Fait que moi, j'étais bien. Là. J'avais pas l'impression qu'hier, c'était une journée nécessaire, mettons, la pluie. Mais regarde. Pour ce qui est de ce soir et cette nuit, elle sera de retour. On est à 4 degrés, pluie intermittente. Demain, 30 % de possibilité d'averse à 7 degrés. Il y aura des petites possibilités de soleil en après-midi. On va le prendre parce qu'après ça, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est autour du 10 degrés en général avec de la pluie et des nuages. Fait que... Bon. On va essayer de vous en mettre du soleil cet après-midi dans vos vies. Pour ce qui est de la circulation, ça roule bien jusqu'à maintenant. Ça va s'installer éventuellement, j'imagine, évidemment. S'il y a quoi que ce soit, ben c'est le 418-971-1021 texto. Plusieurs façons de nous rejoindre. Il y a le 780-1021 également. Les médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, la chaîne YouTube, X et compagnie. D'ailleurs, la chaîne YouTube... Si vous avez pogné le podcast de Denis hier, des grands événements... C'est le fun, mais je vous invite à aller le voir avec images.
C'était le début de la saison qui débutait hier.
Ça a commencé avec le podcast sur la tuerie de l'Halloween. Donc, on se ramène à cette soirée-là du 31 octobre 2020 où Carl Giroir s'en va dans le Vieux-Québec déguisé en samouraï avec son sabre et décide malheureusement de prendre des vies, d'en blesser d'autres. C'est particulier parce qu'on aurait pu jaser avec beaucoup de monde dans le cadre de ce podcast-là. Puis on a choisi d'y aller avec un gars qui a été premier sur place, un gars qui travaille pour Le Soleil qui s'appelle Steve Jolicoeur, qui lui est photographe carrément pour le journal Le Soleil. Beaucoup dans le judiciaire, là, vous comprendrez, dans les faits divers. Oui. Donc, cette soirée-là a pris mille et une images. Vous comprendrez qu'il y a des images qui ne sont pas accessibles pour les raisons qu'on comprend, mais il nous a fourni une banque d'images, par exemple, des images qu'on n'a pas nécessairement vues encore pour pouvoir accompagner le visuel du podcast. Fait que si vous avez la chance, vous ne l'avez pas écouté, vous voulez le réécouter avec ces images-là à l'appui, je vous le conseille vraiment. Ça se retrouve sur la chaîne YouTube depuis hier, 20h. Puis ça ajoute une autre dimension à l'écoute de ce podcast-là.
Oui, puis le timing est particulier que ce soit le premier podcast qui soit diffusé de cette saison-là parce que deux semaines avant, c'est la cour d'appel qui a décidé de casser le verdict de culpabilité dans l'histoire de Carl Giroir. Puis on aura un nouveau procès dans tout ça, mais là, c'est vraiment le fil des événements de cette soirée-là, tel que vu par Steve.
Non, je vous le conseille vraiment. Puis bien là, à partir de là, vous comprendrez que pour les 4 prochaines semaines, vous aurez un épisode tous les lundis soirs, 19h, qui sera sur nos ondes et sur YouTube à compter de 20h. Fait que bref, je vous le conseille. J'ai envie qu'on se jase. Les filles, oui, mais 88-971-1021. Puis c'est pas une question qui va toucher l'aspect physique de la chose. Peut-être plus l'aspect psychologique, physique. On peut parler des maladies, mais je veux savoir, avez-vous peur de vieillir? Je suis tombée sur quelque chose ce matin que j'ai trouvé charmant, que je vais vous faire entendre dans les prochaines minutes. Une dame qui va avoir 106 ans bientôt, qui habite à Saint-Éphrem-de-Beauce. 106 ans, Gilbert Tamel, qui habite à la même place depuis 75 ans, qui a tissé des liens, évidemment, avec sa communauté, ce qui aide énormément énormément au principe de vieillir, mais c'est pas la réalité de tout le monde de pouvoir habiter un peu plus reculé dans des communautés où il y a un certain support. T'sais, elle, Gilberte, là, y a une sœur qui va y porter son journal tous les matins, il y a la voisine...
Tout le monde prend soin d'elle.
Tout le monde prend soin d'elle.
On est loin de la personne âgée dans une RPA que ses enfants vont pas la visiter.
On n'est pas là, pas en tout. Et elle est encore autonome dans son chez-eux, ce que je trouve exceptionnel. Puis ce qui est un rêve pour tout le monde, on va se le dire, mais ce qui n'est pas nécessairement une réalité, parce qu'on a une population vieillissante de laquelle on a de la misère à s'occuper, on va se le dire. Puis on est loin d'avoir terminé. Élise Berger-Pelletier, urgentologue, nous avait déjà dit, c'est-tu 2030 ou 2035?
31.
31, bon, entre les deux. Mm. Que là, on aurait comme atteint le top de la pyramide, puis on s'en va à l'inverse. Là.
Qu'il y a moins de population active que de population
vieillissante
sur le marché du travail. Fait que là, disons qu'il y a moins de mains et il y a moins d'argent pour prendre soin de ces personnes-là.
Exact. Puis ça m'a mené à une réflexion d'écouter une partie de ce reportage-là qui a été fait par Radio-Canada avec Gilberte Hamel. J'ai trouvé ça charmant, mais je me suis même posé des questions sur, bon, un, moi, j'ai-tu peur de vieillir? Mais deux, avant moi... Il y a mes proches, il y a mes parents. Mm-hmm. Et puis, tu sais, ça va vite, la vie. Hein? Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps. Moi, je suis encore jeune, 29 ans. Mais il y a des moments où j'arrive chez nous, mettons, puis je regarde d'un regard un peu extérieur mes parents ou des souvenirs sur mon téléphone d'il y a juste 7, 8, 9, 10 ans où dans ma tête... C'est la même personne, mais quand j'observe la réalité, il y a des choses qui ont changé, que ce soit des bobos physiques, que ce soit bon, le look, le mental, la façon de penser. Puis ça te mène à te dire, je vais faire quoi avec mes proches? T'sais? Je veux-tu qu'ils se ramassent dans un CHSLD ou dans une RPA, ce qui est peut-être bon, un peu mieux parce que tu es autonome à la limite, là, mais tu sais, je veux-tu qu'ils se ramassent ou je veux leur donner la chance de pouvoir vieillir dans un environnement qui leur appartient, dans leurs affaires à eux?
Puis eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que, oui. Tu sais, nous, on se fait un plan avec nos parents. Oui. Moi, je suis un petit peu plus vieille que toi, Audrey. Oui. Puis j'ai pas mal d'amis autour de moi qui commencent à devoir gérer leurs parents puis de gérer ces choses-là.
Est-ce que les parents ont pris des décisions? Les enfants sont obligés de contribuer à ces décisions-là?
Bien, moi, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de familles dans lesquelles la communication est simple. Okay?
Oh, hey boy.
On a beaucoup de problèmes de communication en famille. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'émotions. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur cadeau que de parler clairement à tes enfants et leur dire, regarde, moi, c'est ce que je voudrais, c'est ce que j'ai prévu. Voici combien d'argent je me suis mis de côté pour mes vieux jours. Voici comment je vois ça. Et voici la contribution que je te demande. Parce que sinon, on reste dans le non-dit. Puis là, les enfants, on s'inquiète un peu. Tu sais, tu dis... T'sais, puis on a la culpabilité. Tu dis, je vais-tu me retrouver avec mes parents chez nous? Je vais-tu te voir? Comment ça va fonctionner?
Est-ce que c'est ça, leurs attentes?
Qu'est-ce qu'ils veulent?
Puis il y a combien d'histoires où ça vire bout pour bout en une journée de verglas?
Oui.
Qu'il y en a un qui se pète une hanche.
Une
là,
maladie.
Trop, n'importe quoi, là. Puis tu vas passer de parents où tu pensais que ce moment-là où on devrait avoir de prendre des décisions et d'avancer parfois de plusieurs
là,
années.
Là, t'es bousculé dans ces discussions-là. Donc moi, je trouve que c'est un beau cadeau à faire. Puis pour moi, j'ai l'impression que ça doit venir des aînés.
Tout
dans le sens que nous, c'est pas notre place. Puis tu sais, je vais vous le dire bien franchement, moi, j'ai essayé d'avoir une discussion avec ma mère.
Ah ouais, hein?
Puis finalement, avec le recul, je me suis dit, elle était pas prête à avoir cette discussion-là encore.
Ah, pour vrai, OK.
Puis elle était comme, je vais m'organiser, puis c'est correct. Mais je pense que ça doit venir des parents. Donc moi, si j'ai un message à envoyer aujourd'hui, les gens qui sont plus âgés, puis vous avez des enfants, commencez donc à ouvrir le canal de communication.
Tu vois, moi, je le voyais à l'inverse. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que moi, je me disais... Ça fait-tu partie de notre job d'enfant de redonner, entre guillemets, à nos parents qui nous ont élevés, qui ont pris soin de nous?
Oui, tout à fait, mais dans quelle mesure?
C'est ça, et de la manière dont tes parents vont se sentir à l'aise. Tu sais, parce que là, on parle juste, tu sais, on parle en général, là, mais à un moment donné, si tu deviens carrément proche aidant, c'est une autre histoire.
Ah, ouais. Oh, mon Dieu, on est ailleurs. Là.
On est ailleurs. Là.
Je pense que...
l'histoire de Gilberte, là,
oui.
C'est le rêve. Okay?
Ah, vraiment. Et je
c'est ce qu'on veut. Là.
Je vous la fais entendre parce que je la trouve tellement mignonne.
Si je suis encore comme je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'ont... Je suis restée dans ma maison.
C'est pas elle qui joue.
c'est la confusion.
Ces mondes-là, il y a 100 ans, pareil comme moi. 29 avril 1920, oubliez-vous. Ça fait longtemps. J'ai pas de marchette et pas de canne. J'en ai, mais je m'en sers pas. Pas encore. Moi, j'étais une personne très vive, tu sais. Fallait que ça y aille vite. Puis là, c'est ralenti. Puis ça, j'aime pas ça. Oh. En me levant le matin, ben, je commence, parce que je suis obligée de porter des oreilles. Puis après ça, ben, ça prend mes lunettes. Puis après ça, j'ai des dents. Les morceaux s'en vont un après l'autre.
Elle est tellement cute.
À midi, je pense qu'on va manger du jambon. La patate, c'est des patates jaunes, ça. Elle me fait encore des petits gâteaux, elle me fait des biscuits. Si je suis encore comme je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'ont... Je suis restée dans ma maison. Puis toutes les personnes âgées là, qui vieillissent, là, puis qui déménagent, là. Non, ça, faites pas ça, parce que vous êtes certains, ils y vont pas longtemps. Ma sœur, là, elle a 94. À Dichenu, il y avait des sapins, puis il y avait des érables. Puis là, elle est dans un foyer, là, puis ça lui manque, ça. Là, je suis contente de garder toute ma tête. À cause que c'est une personne âgée, la plupart du monde, ils pensent que je suis à moitié perdue, là, tu sais, là. Moi, je suis rendue à la 5e génération.
Fait que, tu sais, vous voyez un peu le genre.
Je l'aime donc bien, elle.
On l'aime.
Si je restais resté dans mon village, j'irais l'aider. En échange de gâteaux.
Ouais, c'est ça, elle t'aiderait en te faisant des gâteaux. Mais c'est fou parce que, tu sais, elle a dit, moi, je suis restée plus jeune, je suis restée avec toute ma tête parce que je reste dans ma maison. C'est sûr que c'est pas accessible à tout le monde. Ça dépend aussi de ton état de santé. Mais moi, je crois bien gros à ça. Que la santé, ça passe par un peu d'inconfort, puis il faut un peu que tu te pousses.
Oui.
OK. Donc, c'est parce que des fois, tu as le réflexe, puis là, nous autres, on n'est pas des personnes âgées. Fait que, tu sais, s'il y en a qui nous écoutent, écrivez-nous si vous trouvez qu'on est dans le champ. Mais, tu sais, des fois, on entend, ben moi, je veux être dans un endroit où j'ai pu à déneiger. Je veux être dans un endroit où j'ai pu atteindre le gazon. Fait que là, tranquillement, on s'en va vers du confort, puis on est de moins en moins actif. C'est sûr que quand j'entends, tu sais, tu vis dans la nature, tu es dans ta maison, tu continues de cuisiner. Mm. Bien, c'est sûr que ça garde un peu plus jeune, à mon humble avis. Puis moi, je vois des modèles. Vous savez que je suis une passionnée de politique. Des anciens politiciens qui sont restés super actifs. Hey, je m'excuse,
font du mentorat.
Jean Chrétien. Là.
Oui. Il est rendu à quel âge? Hein?
90 ans.
C'est fascinant.
Il fait du ski, il continue de travailler, il a toute sa tête. Moi, je pense que le travail, ça garde jeune aussi.
Mais Jean Chrétien a des moyens.
Et voilà, dont
on pas. Mais bon. Tu sais, moi, je résume ça à être stimulée, en fait, mentalement puis physiquement.
Ben, tu vois, moi, je me suis dit, le jour où je vais choisir d'aller en RPA, j'ai l'impression de travailler pour cette RPA-là.
Oui, c'est ça.
On va partir ma petite émission de radio, je vais leur faire leur petit bingo.
Ma grand-mère.
J'ai une de mes tantes qui est plus vieille, qui s'occupe des fois de sa sœur plus jeune, puis quand elle fait des commissions pour elle, elle dit... Je m'occupe d'une aînée, tu sais.
Ma grand-mère est pareille.
Je trouve ça super drôle.
Elle fait du bénévolat dans des centres, dans des RPA, puis elle dit « je m'occupe des petits vieux ».
Ben oui. Et souvent, il y en a qui vont être plus jeunes qu'elle.
Elle approche 90 ans, tu sais.
Mais il y a aussi la réalité de ceux qui ont des parents qui voudraient rester dans leur maison, mais que là, c'est plus possible.
Ils n'ont plus les capacités, les aptitudes,
plus compliqué. Moi, j'ai un documentaire à vous recommander, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est « 100 ans de plénitude, les secrets des zones bleues ». Avez-vous déjà vu ça?
J'ai entendu parler des zones bleues, ouais.
Puis ils font vraiment le tour de ce qui favorise de devenir centenaire puis de vieillir en santé.
C'était ça à travers le monde?
À travers le monde. Donc, tu vas au Japon, en Italie, en Grèce, au Costa Rica et en Californie. C'est des zones bleues, donc c'est des endroits où est-ce qu'il y a le plus de centenaires. Puis vraiment, les éléments qui ont le plus d'impact, bien, régime alimentaire, évidemment, comme la manière dont tu manges.
Si on a un régime alimentaire absolument pourri, là.
Bien, c'est ça. Puis en fait, c'est le bout en Italie, notamment, où est-ce qu'on parle, et en Grèce, où est-ce qu'on parle beaucoup, beaucoup d'alimentation. Ils ont des régimes alimentaires que c'est prouvé que ça permet de vieillir davantage en santé. Évidemment, être actif physiquement, être entouré d'enfants. Quand ils vont au Japon, les personnes âgées vivent avec leur famille. Quand ils sont âgés, et ils aident avec les petits-enfants, vont les chercher à l'école, leur faire les
ça
devoirs.
Garde jeune,
ils mangent aussi assis sur le sol, donc ils ont moins de chutes, ils jardinent, etc. Et ils vont au Costa Rica parce que le système de santé publique est vraiment performant. Il y a même dans les villages très pauvres, il y a le système de santé des infirmiers qui se promènent, des médecins en
beaucoup
moto.
À domicile.
À domicile.
Qui leur permettent de demeurer là. Puis mine de rien, quand tu es capable de recevoir certains soins et services chez toi, beaucoup moins de chances de pogner une cochonnerie
qui
traîne dans une salle d'urgence, peu importe. Là. Fait que ça aussi, ça aide, tu sais, de pas challenger ton système immunitaire constamment.
Non, ça fait une différence en motadine. Puis, tu sais, je lis les textos. Là. Moi, je suis célibataire, sans enfant. Ma crainte, c'est ça, de mourir seule dans un CHSLD. Parce qu'effectivement, que l'entourage va... Tu sais, on parle de tout ça, mais moi, je crois beaucoup en la puissance d'un entourage, d'une famille. Tu sais... les CHSLD, ce qui me traumatise le plus, je pense, là, même les RPA, c'est à quel... En même temps, on peut pas s'en vouloir, mais c'est à quel point, maintenant, comment faire ta vie, t'as ta petite famille à élever, ben toi aussi, il y a une continuité.
C'est toujours le fun d'y aller, hein, non plus, ben, en passant en CHSLD. C'est tough pour le monde.
C'est difficile, des fois, pour certains enfants, de voir les parents dans cet état-là, mais ça, je trouve qu'il y a comme un parallèle, tu sais. Égoïstement, c'est mieux pour nous de pas voir ça nécessairement, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on n'aide pas nos parents.
Mm. Notre société est en train de changer beaucoup. À un moment donné, le CHSLD, ça pouvait durer très longtemps. Puis c'est de moins en moins le cas parce que, on s'en est déjà parlé, notre nouvelle génération de personnes âgées est beaucoup plus... veut son confort, ouais, veut choisir sa fin de vie. Ils veulent pas étirer les affaires.
Mais on les a vus, les CHSLD, dans des reportages, dans des nouvelles. Oui. On a vu aussi des proches qui habitaient là. Puis je pense qu'il y a pas mal de monde qui se sont dit « OK, moi, je veux pas me retrouver
C'est pas vrai que ça va être mon parking
Alors,
de fin de vie.
Alors, on s'organise. Exactement. Mm-hmm. Puis je veux quand même préciser qu'il y en a des biens, les CHSLD. T'sais, moi, ma grand-mère, du côté maternel, était en CHSLD. Elle avait fait du bénévolat dans ce CHSLD-là toute sa vie. Puis ça lui faisait plaisir de se retrouver parce que c'était un beau milieu. Mon grand-père aussi.
C'est son environnement.
Puis mon grand-père, en passant, a vécu jusqu'à 95 ans. J'écoute Gilberte et qui dit « J'ai des appareils, des oreilles, j'ai des lunettes. » Puis mon grand-père, tout le monde, il pensait qu'il perdait un peu la boule parce qu'il était sourd un peu. T'sais. Puis le monde pensait qu'il était mêlé, mais c'était juste de la sourdité. Puis il était dans son CHSLD puis il disait « Ah, je la connais, elle, à la télévision. » Puis les infirmières étaient comme «
Oui, oui,
ouais,
monsieur.
Ouais, »
Ah, oh, c'est drôle.
C'était moi.
Ah, oh, c'est drôle.
Puis là, ils ont appelé ma mère puis ils disaient « Votre père commence à être un petit peu mélangé. » Il dit qu'il connaît la fille à la télévision. Puis il dit, oui, elle connaît, tu sais. Mais jusqu'à 95 ans, dans son CHSLD, toute sa tête, vraiment heureux en CHSLD. Mais il avait besoin de services, il avait besoin de ces soins-là.
Mais il est peut-être là le bémol, service, tu sais, tu l'as dit. C'est peut-être ce qu'on a pu tant qui crée un peu cette peur, cette peur-là. Salut, la madame qui est avec vous a 100% raison, elle s'appelle Antonine. Nous sommes présentement dans ce processus et mes parents ont dit clairement ce qu'ils attendaient de nous pour la suite.
Bravo.
Alors à ce moment-là, ben, c'est que nous sommes 7 enfants, tout est clair pour tout le monde, ça évite des conflits, ça évite, ça évite bien des affaires.
Combien
finalement
de familles se sont brisées
tellement
suite à des parents qui étaient moins autonomes parce que certains contribuaient pas assez.
Oui, il y en a un qui se ramasse avec tout.
Ça amène de l'amertume.
Là, il veut plus d'héritage parce qu'il a passé toutes les dernières années à s'occuper des parents. Là. Hey, t'sais, une bonne communication, c'est tellement un beau cadeau. Bravo.
Dans la garderie familiale où sont allés mes enfants, le père de 80 ans de l'éducatrice allait manger tous les midis et les enfants et lui adoraient ça. Okay. Malheureusement, la pandémie les obligeait à arrêter. Il est décédé quelques temps après. Ça, on a entendu beaucoup parler. Là. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont arrêté pendant la pandémie au niveau cognitif et physique, j'ai envie de dire, pour des personnes âgées, puis ça aide pas pantoute. Claude-André nous dit « Vieillir, c'est une peur, un monstre à affronter, sachant qu'il vaincra. Mm-hmm. Perdre mes options, voir mes rêves s'éloigner. Bref, je ne cesserai jamais de travailler. Je ne veux pas devenir charge à mes précieux et surtout peur de perdre ma lucidité. » J'ai l'impression, effectivement, que c'est une peur qu'on a toutes, mais c'est un gros sujet. Puis... J'ai trouvé ça le fun ce matin de tomber sur Gilberte Hamel, bientôt 106 ans, qui avait du beau dans la vieillesse, parce que souvent, on voit juste le tragique de la mort qui approche ou de nos proches
ou
qui décèdent.
Ou on veut pas y penser, justement.
Exactement. Fait que je trouvais ça inspirant. Je trouvais que ça ouvrait la réflexion sur le vieillissement, mais l'autonomie, les soins, notre rapport aussi aux aînés.
C'est super niaiseux, mais je pensais à ce genre de personnes-là qui demeurent chez eux. Hier matin, en faisant mon lit que je venais de laver, c'est lourd, un matelas. Je me suis mis dans la peau des personnes. Tu sais, il y a des affaires super de base pour nous autres. Comme on était comme, mais voyons, mais comment ils font, eux autres, pour mettre ça, un osteau de drap contour?
Ouais.
Ils ont le temps, par exemple.
Non, mais c'est lourd! Ils vont se faire mal! Fait que là, je me suis dit, j'imagine qu'il y a rendu à un certain moment donné, t'acceptes que quelqu'un rentre chez vous, puis fasse une coupe de tâches pour toi.
Faut que t'acceptes. Mais quand je regarde Gilberte, en conclusion, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, pour réussir ce que Gilberte a réussi.
Oui, garder mon autonomie, ma santé, absolument. Oui, parce qu'on se sent éternel, on dirait, des fois, dans le moment présent. On a l'impression que jamais on va l'avoir, nous autres, le bobo physique. Puis c'est ce que je trouve le plus épeurant. Si on se projette, ça va tout nous arriver. 88-971-1021, on sera pas dans la grosse philosophie comme ça toute l'émission.
J'aime ça, c'est le fun.
C'est vrai que c'est le fun. Je m'en vais vous lire, là. On revient dans quelques instants. On a-tu une grosse journée de nouvelles, Véro?
Correct. C'est bon. Comme si, tu sais, on vient de finir la course à chefferie, on n'est pas encore avancé dans ce que Christine Fréchette va annoncer. On est au lendemain d'une partielle qui fait qu'on est majoritaire au fédéral. Fait que c'est comme une espèce d'entre-deux au moment où on se parle.
On s'en jase au retour de la pause. Gravel. Si vous êtes sur les routes en ce moment, ça se passe quand même encore assez bien. Il y a un ralentissement, par exemple, à prendre en compte sur le pont de Lille. Si vous savez ce qui se passe, là, ça semble être au rouge pas mal dans les deux directions. Surtout si vous tentez de revenir, mettons, à Québec, là, de Lille. C'est assez compliqué. Peut-être vous dire aussi que ce soir, dès 21h jusqu'à 5h30 demain matin, rappelle que le pont de Québec est fermé. Vous prenez le pont Pierre-Laporte, tout simplement. Il y a des travaux qui vont se faire sur le pont de Québec. Pas une super grosse journée d'actualité. Il y a quand même des choses à vous raconter, Véro.
Ça me dérange même pas.
Non, hein? T'as l'air relax. D'habitude, t'es une fille qui aime ça.
Mais
quand ça bouge.
Mais c'est parce qu'il y a tellement de sujets à l'extérieur. En fait, il y a des sujets d'actualité plus que des nouvelles. Mm. Puis dans ce temps-là, moi, ça me stimule. Ce que j'aime pas, c'est une journée où ce qui se passe rien.
Ça fait du bien de temps en temps aussi, je te dirais, sortir de... ouais. des grosses affaires d'actu. Là.
La nouvelle qui retient le plus l'attention, c'est l'annonce qui a été faite un petit peu plus tôt aujourd'hui par le gouvernement Carney, alors qu'on va suspendre la taxe d'assises sur l'essence et le diesel à partir de lundi prochain, et ça jusqu'à la fête du travail, donc au 6 septembre. On sait qu'il y a eu une hausse très marquée du prix de l'essence depuis le conflit qui oppose les États-Unis, Israël à l'Iran. Puis actuellement, ben, ça touche les contribuables, oui, mais ça touche les compagnies de transport, les camionneurs, puis on essaie de trouver une manière d'aider sans nuire, sans, mettons, nourrir une inflation potentielle. Donc, en gros, ce que ça va donner, c'est que ce sera, à partir de lundi prochain, une économie de 10 cents sur le litre d'essence ordinaire et de 4 cents sur le litre de diesel. Reste à voir quel sera l'impact direct, oui, à la pompe, mais aussi dans la chaîne, parce qu'il y a la chaîne de consommation qui arrive là, puis ça peut prendre un certain temps avant que des hausses se rendent aux consommateurs, mais les baisses, des fois, c'est encore plus long. On s'est souvenu dans l'histoire qu'une fois de temps en temps, quand on retirait un point de taxation, le consommateur ne s'en rendait jamais compte parce que souvent, le prix allait rester le même, puis il y a quelqu'un qui s'en mettait plein les poches derrière tout ça. Je ne vous dis pas que c'est ça qui va arriver avec l'essence, mais il faudra rester très attentif. Aujourd'hui, le prix moyen de l'essence pour la capitale nationale, 1,98,3 parce qu'il y a un peu de part et d'autre à travers tout ça. Le seuil de 2 n'a pas été passé encore.
C'est
là.
Hier que je voyais 1,99,9. Puis là, tu te disais, OK, il n'y a personne qui ose mettre le 2 sans pancarte.
Non, je te dis, hier soir, j'ai vu une 98,9. Puis j'étais comme, ouh, une aubaine de quasiment une scène.
Wow.
Fait que ça, vous comprendrez. Là, tu vois, pour Chaudière-Appalaches, c'est souvent là qu'on va nous dire, hey, Saint-Isidore, c'est moins cher, ou telle place, c'est moins cher. Eux, c'est 1,95,2. Le litre pour ce qui est de la moyenne. Puis j'ai toujours une curiosité à aller voir le Saguenay, qui compte un plus grand nombre d'essenceries. Fait qu'eux, ils ont une véritable compétition du prix de l'essence. T'sais, c'est déjà arrivé qu'on voit des différences de 20 à 25 sous le litre.
C'est quand même
entre
énorme,
le Saguenay puis Québec. Puis tu sais, il n'y a pas de raffinerie au Saguenay, c'est plus loin pour transporter l'essence. Non, ils n'ont pas de subvention sur le gaz, contrairement à une légende urbaine qui circule.
Bannières.
Ils ont beaucoup plus de bannières qui sont très réactives. Actuellement, la moyenne hebdomadaire est de 1,96.
Mon doux, hein?
Fait que c'est quand même une différence appréciable. Eux aussi ont vécu le bon de l'essence malgré tout. Fait que ça a été la grosse nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui. Le Parti libéral qui est rendu fort d'une véritable majorité à Ottawa. Les trois élections partielles ont été remportées. Je pensais que ça allait être plus rock'n'roll du côté de Terrebonne. On s'est parlé hier du fameux bulletin blanc pour éviter, parce qu'il y a un groupe qui milite pour changer le monde, le mode de scrutin, exactement. Merci, Antonine. Fait qu'eux, ils avaient inscrit plusieurs
candidats.
C'est comme
52.
Quelque chose du genre.
Ah, puis c'est rien à comparer de ce qu'on a vu dans d'autres circonscriptions. Il y a eu des bulletins avec des centaines de noms.
Fait que là, hier, ce que les gens devaient faire, ils devaient écrire à la main le nom de famille ou le nom de la personne pour qui ils avaient l'intention de voter. S'ils écrivaient le parti, ça ne fonctionnait pas. Puis malgré tout, c'est aux environs de minuit 15 qu'on a été capable de confirmer que c'est la candidate du Parti libéral qui, finalement, avec 731 votes d'avance, se retrouvait élue cette fois-ci. D'ailleurs, Mark Carney a commencé à parler de la suite des choses avec cette majorité-là, qu'il avait entre autres l'intention de faire un gouvernement qui allait agir, mais qui allait aussi collaborer. Il ne veut pas faire de la politique spectacle, c'est des bien beaux mots. On verra de quelle manière tout ça s'applique dans le day-to-day, puis quelles seront les actions aussi qu'ils vont poser. Ils ont beaucoup plus les coups des franches en ayant un parti qui est majoritaire, mais encore là, tu sais, Y avait-tu tant que ça des dossiers qui n'avançaient pas parce qu'il était capable d'aller chercher un vote du côté du NPD une fois de temps en temps? Fait que c'est vraiment plus une assurance, disons, pour la suite des choses, beaucoup moins d'insécurité quand tu essaies de faire passer un budget ou une affaire du genre qui fasse tomber le gouvernement. Ensuite de ça, du côté de Québec, cet après-midi, il y a une rencontre entre Christine Fréchette, la première ministre désignée, et le premier ministre sortant, François Legault. Il y aura d'ailleurs une séance devant les médias à 16h30. Je pense pas qu'on réponde à des questions à ce moment-ci. Mais là, il y a tout plein de grenouillage qui se fait en rapport avec un conseil des ministres qui devrait être annoncé au courant de la prochaine semaine, plus la semaine prochaine que cette semaine. Puis je voulais poser la question à Antonine parce que, bon, on sait, il y a eu beaucoup d'appui du côté de Christine Fréchette, de députés, de ministres. Il va falloir qu'elle fasse le ménage à travers tout ça. Bernard Drainville qui l'a assuré de son appui, qu'on sait qu'il y aura un poste au sein du conseil des ministres. Il y aurait un non-élu qui pourrait être nommé. Et le nom qui circule, c'est le nom de Guy Cormier, qui est l'ancien boss du mouvement Desjardins, qu'on avait pu voir dans la vidéo, entre autres, qui saluait la carrière politique de François Legault. Est-ce que c'est fondé, Anto, ou encore est-ce que c'est genre de la poudre aux yeux puis c'est pas quelque chose qui pourrait se concrétiser?
Je pense que c'est fondé comme rumeur. En fait, il y avait aussi une autre rumeur sur Olivier Primo qui pourrait être nommé ministre non élu.
Ah ouais.
Donc, c'est les deux noms qui circulaient déjà depuis un petit moment. Guy Cormier, c'est un peu plus sérieux parce qu'il y avait aussi, son nom avait circulé même pour la chefferie de la CAQ depuis qu'il a terminé à la tête de Desjardins. Je pense qu'il est comme ouvert à contribuer autrement à la société.
Et je trouverais ça
ses possibilités.
Spécial, Olivier Primo.
Ah, Olivier Primo, c'est parce que l'affaire avec Olivier Primo, c'est que lui, là, il s'intéresse beaucoup à la politique.
Absolument.
Je pense qu'il n'a pas encore trouvé la manière de s'y prendre, là, mais ça l'intéresse.
Est-ce qu'il veut être politicien ou il veut être analyste en général dans la vie? Il est fort sur les médias sociaux.
Il veut faire de la politique éventuellement.
Mais prends la porte régulière.
Il a vraiment songé, lui aussi, à se lancer dans la course, là.
Malgré ce qu'il a dit.
Ah non, mais il voulait y aller, mais la CAQ ne voulait pas. Parce que ce parti-là, il faut comprendre qu'il n'y avait tellement pas beaucoup de membres qu'une vedette arrive, il vend 15 000 cartes de membres, c'est terminé. Là. Fait que n'importe qui un peu pouvait devenir premier ministre s'il le souhaitait vraiment.
Si elle allait chercher suffisamment d'appui.
Mais il a tweeté à un moment donné pour dire, t'sais, après réflexion, j'ai beaucoup de respect pour la fonction. Je ne suis pas prêt maintenant à faire ça, puis c'est bien correct. Puis je pense que c'était la chose à faire. Pour Guy Cormier, on est dans un autre paradigme parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience.
Pas d'expérience politique, mais beaucoup d'expérience professionnelle.
Exact. Puis une expertise financière, économique, que la CAQ recherche. Des ministres non élus, c'est rare, mais ça peut arriver. François Legault lui-même a été ministre non élu avant de se faire élire par la suite dans la circonscription de Rousseau dans les Laurentides.
À l'époque du Parti québécois. Mais ça paraît-tu bien? Parce que j'ai l'impression que comme électeur, tu as le sentiment que tu n'as pas choisi. Là.
Ça dépend des compétences de la personne, je pense, beaucoup. Là.
Bien, aussi, d'habitude, quand tu nommes un ministre non élu, c'est un peu sous promesse qu'on va te faire élire éventuellement. Donc, ça se fait, c'est plus rare. Michael Fortier aussi, au fédéral, c'est quelqu'un qui avait été nommé ministre non élu. Lui, il était sénateur, si je ne m'abuse. Par contre, il était nommé. Donc, il n'était pas élu. C'est sûr que si tu nommes un conseil des ministres avec la moitié que c'est des gens non élus, oui, là, il y a un enjeu démocratique, effectivement. Mais je pense que les gens pourraient avoir de la tolérance pour une personne. On dit, on est allé chercher des compétences. Puis pour Christine Fréchette, nouvelle chef, qui veut montrer un peu un effet de nouveauté, bien, c'est sûr que c'est dur de faire du nouveau avec du vieux. Donc, d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur, bien...
Puis t'en as plusieurs qui ont annoncé qu'ils n'avaient pas l'intention de se représenter à la prochaine élection. Il va falloir que tu trouves une couple de piliers qui, eux autres, vont être prêts à dire « Oui, je vais avoir un poste de ministre-là, mais je m'engage aussi à me présenter à la prochaine élection générale. Puis que si la CAQ est réélue, ça va me faire plaisir de servir la population. » C'est tout un défi, là.
Bonne chance. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si Guy Cormier, la rumeur va se confirmer, puis s'il doit s'engager à se présenter à la prochaine élection pour avoir ce poste-là. Mais Madame Fréchette, puis on va reparler un petit peu plus en profondeur tantôt, là, mais dans ses entrevues, je trouve qu'elle a commencé à donner beaucoup, de plus en plus d'informations sur comment ça allait être son conseil des ministres, et notamment sur la question qui a été posée, est-ce qu'une personne doit s'engager à se présenter à la prochaine élection pour entrer au conseil des ministres? Elle a dit non. Donc là, est-ce que ça va encore plus encourager des gens, finalement, annoncés qui s'en vont? À suivre.
D'ailleurs, Christine Fréchette qui a d'ores et déjà mentionné qu'elle allait annoncer un bouquet de mesures pour aider les contribuables. On parle du panier de l'épicerie, comment on va faire pour le diminuer, l'accès au logement, aux services d'État, c'est à suivre. Puis je termine en vous disant, parce que là, comme je vous parlais, la neige a fondu, fait qu'on va travailler sur le terrain, là. L'éco-centre de Val-Bélair qui va fermer temporairement pour des travaux majeurs de modernisation, mais ça commence le 20 avril et ça va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de septembre. Fait que ceux qui avaient l'habitude que ce soit leur éco-centre, et l'éco-centre, c'est ma grande passion en ville.
Moi, je pense au déménagement et compagnie.
Ben, oui, mais il va falloir qu'il se rapatrie soit celui de l'Étrière, des Rivières, Jean Talon ou encore Beauport. Il faut savoir que dans le communiqué de la ville, on nous disait que c'était l'éco-centre de première génération construit il y a près de 30 ans et qu'il est rendu en fin de vie. Il n'est plus adapté à l'achalandage. On sait que Val-Bélair, ça a eu une croissance incroyable au courant des dernières années. Fait qu'on n'a pas le choix de faire ce sacrifice-là pour les prochains mois.
Merci, Béraud. Dans les prochaines minutes, on jase de camp de jour. Êtes-vous dans cette situation où vous serez dans la grande course lundi prochain pour essayer d'inscrire vos enfants au camp de jour pour cet été? On en parle dans quelques minutes. J'ai l'impression qu'Antonine a des affaires à dire là-dessus.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans le retour, par texto 88 971 1021.
Gravel dans le retour, présenté par Yuzu Sushi, qui se hisse au sommet de ton palmarès pour une idée repas à emporter. Yuzu Sushi, le hit de ta journée.
Faites partie de la famille Kia Beauport. En avril, louez le Kia Niro EV 2026 à partir de 110 $ par semaine sur 60 mois. Passez-nous voir à Beauport.
Kia Beauport.
Chez Planète Nutrition, viens voir notre nouvelle variété de repas. Ça devient agréable de bien manger avec un choix de plus de 30 repas à chaque semaine. Chez Planète Nutrition, vivre en santé, c'est une culture. Planète Nutrition Bouvier, planètenutrition.ca.
Salut, c'est Boucher.
Salut, c'est Lortie.
Lortie, une thermopompe, ça donne du froid l'été, du chaud l'hiver, c'est pas mal ça, non?
Ça procure surtout du confort quand c'est installé comme il faut.
Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire?
On vérifie la charge électrique, on optimise le débit d'air, on ajuste l'appareil selon les besoins et selon la réalité de la maison.
OK, parce qu'une thermopompe, c'est pas juste un climatiseur.
Ben non, c'est un système complet.
Fait que si c'est bien fait, ça change tout.
Thermopompe, énergie et optimisation.
C'est notre affaire.
Appelez-nous au 418-623-2323 ou faites une demande de service en ligne.
Boucher,
Lortie, c'est réglé.
Saviez-vous qu'un nombre record de clients de Laurier Mazda changent fois après fois pour le même modèle? C'est même avec tristesse qu'ils viennent porter leur véhicule à la fin de la location. De la même façon qu'un grand classique nous tire les larmes, Laurier Mazda est LE classique de l'automobile. Ce mois-ci, vivez une vive émotion en mettant la main sur un CX-5 2026 modèle GX, location à partir de 118 $ par semaine avant taxes, zéro comptant. Laurier Mazda, le classique de l'automobile.
Ça cartonne!
Et si vous finissiez l'été en beauté? Le 12 septembre, pédalez dans Portneuf lors du Tour cycliste Santé Alcoa. Au profit de la Fondation Santé Portneuf, pédalons ensemble pour prendre soin de nous, chez nous. Inscriptions et informations au santéportneuf.ca.
Je vous lis un texto qui vient d'entrer au 88-971-1021. J'ai inscrit mes 4 enfants pour la ville de Lévis la semaine passée. J'étais sur le site à 7h pile avec 20 minutes d'avance. J'étais 362e. J'ai passé après 10 minutes et déjà, il y avait des semaines de complète. J'espère que les autres parents sont prêts. C'est aussi pire que les garderies. Ce qui est vraiment pas rassurant si vous avez des enfants qui sont en âge d'aller dans les camps de jour. Les inscriptions, Antonine, commencent lundi.
À Québec, oui.
À Québec, oui.
T'es-tu prête?
Ben, OK. Là, il faut que je vous dise d'abord, moi, mes enfants aiment pas ça, les camps de jour.
Y a-tu un enfant qui aime ça?
En fait, c'est pas vrai. Je sais pas.
Tes enfants sont-ils déjà allés?
Bon, mon plus vieux, je l'ai envoyé un été, c'était un cauchemar. Mon plus jeune, même affaire.
Camp de vacances ou camp de jour?
Non, le camp de jour municipal, là. Vraiment, okay, là, okay. Où est-ce que tu as des jeunes moniteurs, on fait des activités puis on va à piscine.
Alors qu'il y a bien des enfants qui aiment pas ça sans y avoir mis les pieds. Parce qu'autour d'eux autres, ça grenouille sur le camp de jour, puis que souvent, quand ils commencent à y aller, ils se mettent à triper, puis il y en a même qui deviennent moniteurs plus tard.
Non, il faut l'essayer.
C'est comme
là.
Moi, je voulais rien savoir des camps de vacances quand j'étais jeune. Avec le recul, j'aurais vraiment trippé ma vie.
Non, exact. Non, moi, je les ai obligés à essayer. Mais ils n'aiment pas ça, OK? Puis, tu sais, honnêtement, à un moment donné, quand ton enfant est malheureux, puis que là, c'est l'été, puis là, tu veux qu'il passe un bel été, fait que moi, j'ai flanché à chaque fois, puis j'ai plutôt été vers des camps spécialisés. Mon plus vieux, ben, j'étais séparée de son père, fait qu'on se séparait l'été en deux. Puis on prenait nos vacances, mettons 3 semaines de vacances, 3 semaines de vacances, une semaine chez grand-papa au début, une semaine chez grand-maman à la fin. Puis, tu sais, on s'organisait comme
c'était
ça.
C'était comme moins pire.
Mais là, j'ai eu la mauvaise idée dans la vie que je ne suis pas divorcée en ce moment.
C'est ça, tu gardes ton
chum. Ça marche pas, là. Donc, on paye une fortune pour des camps.
Ouais, parce
donc...
que c'est plus cher, ces camps-là aussi.
Et ça me coûte. Mais c'est... écoute, c'est une priorité pour moi. Fait que c'est budgété. Mais j'entends beaucoup de parents qui disent que c'est les Hunger Games, là. pour trouver leur place fou, en camp. Puis moi, je m'excuse, là, mais là, je vais vous donner des infos factuelles dans un instant et pas seulement mon opinion. Là. Mais comment ça se fait qu'on a une place garantie à l'école, mais qu'on n'a pas de place garantie à la garderie ou au camp de jour? Il y a quelque chose qui m'échappe, mais complètement.
Puis c'est faute de ressources, probablement. Là.
Oui, mais là, je veux dire, les écoles ferment. Là. Tu sais, c'est quoi? Il faut qu'on arrête de travailler. On a besoin de place en camp de jour. Bon, fin de l'éditorial. Juste vous dire que, bon, lundi, soyez prêts, mais qu'il y a aussi une hausse de tarifs dans les camps de jour cette année. Pendant l'élection municipale et après, là, avec la réélection de Bruno Marchand, il avait avisé que c'était possible qu'il y ait certaines coupures dans les services de camp de jour, mais aussi dans certaines piscines. Finalement, il n'y a pas de coupure comme telle, mais on augmente un peu les tarifs.
Mais je trouve pas ça détestable. Si tu m'en, en même temps, j'ai pas d'enfant, fait que je suis pas la bonne personne pour en parler.
Ben,
là, mais...
en fait, je pense que c'est mieux qu'il y ait des services. Puis que ça... qu'on honnêtement, en coupe. Quand je regardais avec d'autres municipalités, ça augmentait partout. On parle de 3 $ par jour. Bon, ça, c'est le chiffre qui a spiné parce que ça a l'air moins pire. Ouais. 3 $ par jour, mais c'est quand même 20% d'augmentation. C'est quand même énorme. Donc, pour un premier enfant, on parle de 82 $ par jour si vous l'inscrivez 5 jours dans la semaine. Deuxième enfant, c'est un peu moins cher, 77 $. Troisième enfant, 72 $. Quatrième enfant et plus, 41 $. Juste pour vous donner un exemple dans le budget, ça veut dire que si vous avez un enfant, vous l'inscrivez tout l'été, on compte 7 semaines parce que ça finit le 14 août, ça, c'est une autre affaire. Mm-hmm. C'est 574 $. Ça compte pas, il y a des sorties, là. Faut que tu rajoutes des 25 $, 35 $, 45 $ pour des sorties à travers ça. Deux enfants, 1113 $. Donc, ça demeure quand même raisonnable, mais encore faut-il avoir une place comme telle.
La ville, Anto, avait dit qu'on était l'endroit où les camps étaient les plus accessibles. Ouais. Qu'à Québec, on était comme dans les top.
Dans les moins chers, ouais. Puis un tas d'affaires.
C'est vrai, ça? Ou on fait parler les chiffres comme on veut, maintenant?
Il y a un peu de communication, mais l'année passée, à la fin du mandat de M. Marchand, il y avait une grosse annonce. Il y avait un investissement quand même de 11,4 millions de dollars. Il semble aussi qu'un effort considérable a été fait pour intégrer les enfants avec des besoins particuliers. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ne peuvent pas être dans des groupes normaux. Il faut qu'il y ait une personne qui les accompagne, etc. Et qu'il y a vraiment un effort d'accessibilité qui est fait. Il y a des partenariats avec différents organismes. Donc, moi, j'entends des bons commentaires et j'entends moins que peut-être dans d'autres municipalités qu'il y a des parents qui se retrouvent vraiment le bec à l'eau. Pas de place.
Parce que l'an passé, on l'avait entendu quand même pas mal. Il y avait beaucoup de monde qui...
C'était il y a deux ans.
C'était il y a deux ans,
puis l'année passée, on avait changé un peu les manières de fonctionner. Puis le lendemain, on avait comme un peu sondé tout le monde, puis ça avait été mieux. C'est pas tout le monde qui avait nécessairement le camp qui voulait à proximité de chez eux, mais il y avait des places, le camp un petit peu plus loin. Puis...
Je suis juste mais la tempête.
C'est un stress. Puis il faut quand même rappeler que tes deux parents, toi, tu dois demander tes vacances. Là, oui. On est au mois d'avril. Là. Le banc de neige n'a pas fini de fondre. On en parlait tantôt. Là, il faut que tu prévois tes vacances. Il faut que les deux demandent à leur patron les vacances. Là, il faut que tu réserves les camps en même temps. Là, il y a peut-être aussi un camp à l'extérieur pour les enfants. Là, peut-être que tu veux te timer avec son cousin pour les envoyer tous les deux au petit camp en colonie vacances dans la forêt, etc. Tu sais, c'est quand même un stress. Puis là, la vie continue. Puis on est toutes, on est tous et toutes puis, très occupés.
C'est la moyenne de semaine de vacances des parents n'est pas si élevée que ça. Là.
Non, c'est
l'autre affaire. Tu te ramasses dans le chenou de vite. Tiens, un texto qui vient d'entrer. J'ai tenté d'inscrire ma fille, moi, aux activités du Rouge-Or à l'Université Laval pour deux semaines cet été. C'est un nouveau portail. Il a planté, j'ai perdu sa place.
Bien, absolument.
C'est
pour pas le dire, pour pas le nommer. Là, le PEPS, là, du tout, c'est un go-to. Là, ça va très bien, mais c'est sûr, c'est un peu chaotique tout le temps, avoir l'information, etc. Et quand l'inscription a ouvert, là, t'sais, c'était genre, OK, là, c'est maintenant. Puis moi, j'étais super occupée. J'avais dit à mon chum, c'est quand que ça ouvre les inscriptions, ça doit être bientôt. Il dit, oui, j'attends le courriel. Mais là, le courriel rentre, comprends-tu? On est dans la routine du matin, et je m'en vais à TV, je suis en train de me maquiller.
Il faut qu'on se décide.
Je sais pas c'est quoi mes vacances, sors mon tableau. Mais tu sais, moi, je travaille avec plusieurs personnes dans la vie, plusieurs employeurs.
J'ai entendu des familles, mettons, qui se mettaient plusieurs là, en file d'attente. C'est plusieurs pour essayer de. OK, Emma, c'est toi qui l'as inscrit en enfant pour
t'y... Absolument, c'est comme avoir une place dans une clinique, là.
Tu vois, il y a Sandra Foudy qui vient nous jaser dans les prochains instants, puis je la vois réagir, je la vois hocher de la tête. T'as des enfants, Sandra?
Oui, effectivement, puis j'ai tellement eu du trouble avec justement les 40 jours, puis le bout de pandémie, c'était une catastrophe,
sérieusement.
Sont-ils encore en âge d'y aller? T'es en voiture cet été?
Non, ils sont dans l'âge de se garder tout seul, mais là, ils font des camps sportifs maintenant.
OK. Fait
que là, c'est plus que c'est cher, là.
Ouais, ma fille fait de l'équitation.
Oh mon Dieu!
Ah, ouais. Ça coûte-tu tant? Là, moi, j'ai encore une fois, j'ai pas d'enfant, mais ça coûte-tu tant plus cher les camps spécialisés rendus là? Ah ouais, ça n'a même pas rapport les prix?
Ah, c'est des centaines de dollars par semaine.
Sans problème. Oui, ouais, puis une semaine, c'est 4 jours. Là. C'est pas toute la semaine.
OK, c'est pas 5 jours semaine. Faut que tu t'organises la 5e avec les parents, l'entourage. Ouais. Okay,
mais des fois, ils donnent un petit t-shirt avec ça. Là. C'est belle fois.
Puis moi, je me disais, ça va être parfait. Ma fille, elle va pouvoir vivre son rêve, faire de l'équitation juste une semaine dans l'été. Ça va être suffisant. Non. On veut faire du cheval tout le temps maintenant. Fait que ça me coûte encore plus cher.
C'est notre affaire. Les enfants, c'est... on réalise pas quand on est jeune. L'argent pousse dans les arbres quand on est jeune.
Ben oui.
Moi, je veux faire ça, maman, je veux faire ça, papa, j'ai
si
cette passion-là.
Si tes parents disent non, c'est parce que c'est pas des bons parents.
Non, 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 c'est ça, il faut t'appeler la DPJ. Et j'ai déjà menacé, j'en avais du compte autour de la tête, j'ai déjà menacé ma mère quand j'étais jeune que moi, j'allais aller à la DPJ. Ma mère, elle m'avait dit, ah, viens, mon amour, on va aller faire ta valise ensemble. Je suis rentrée dans la maison.
Ouais, t'as choqué, hein? T'as choqué.
Je suis rentrée dans la maison. Mais c'est tout qu'un combat. Puis à partir de lundi à Québec, vous allez être pogné là-dedans si vous avez à inscrire vos enfants. Je vous souhaite que ça se passe bien. J'ai l'impression puis le sentiment qu'on va en rejaser lundi prochain.
Oui, on fait un bilan avec vous. Vous nous donnerez vos expériences si vous avez réussi à avoir votre place et si c'était très compliqué.
Vous avez entendu Sandra Plourde, qui a été la première gagnante de MasterChef Québec. Sandra Foodie. On l'aime bien gros parce qu'elle est bonne, mais on n'a pas le choix de dire qu'on l'aime bien gros parce qu'elle amène de la bonne bouffe en studio.
C'est tellement mon influenceuse du bouffe, c'est ridicule.
Mettons qu'on est bien honnête, là. Faut que je te dise deux choses, Sandra. Un, ta sauce piquante, moutarde, pickle, là.
Ouais.
Gros must à la maison, on peut plus s'en passer. Deuxième chose, ton livre qui est sorti il y a quelques semaines, qui est en vente pas mal partout, on peut se le dire. Oui. On est dans le barbecue, plancha et compagnie d'hiver, hein? Je suis pas dans le champ.
Oui, mais un barbecue qui est différent, vraiment plus à mon image, tout en fraîcheur, en fruits, en légumes, en produits de la mer. On va vraiment ailleurs dans le barbecue. Dessert, effectivement.
Cochon,
mais des recettes super faciles que tout le monde peut faire là, à la maison. C'est drôle parce que j'arrive du Costco, ici, à côté, sur Bouvier, justement.
Tu veux à face?
Puis oui, mon livre est là et j'ai fait 2 dédicaces.
Oh, arrête! C'est belle fun! Je me demandais en plus à quel point, tu sais, c'est pas des questions, on dirait normalement que tu oses poser, mais on se connaît assez, à quel point ça pogne encore beaucoup des livres de recettes. Parce qu'on va se le dire, il y en a en tabarnouche. Là.
Ben, en fait, moi, les seuls livres que j'ai chez nous, c'est des livres de recettes.
Ma bibliothèque est pleine puis sont classés par couleur.
Ouais, mais là, vous autres, vous êtes des foodies.
Pourquoi je suis pas surprise?
Ouais, c'est ça, j'ai aucune surprise non plus.
Non, mais t'aurais dû me voir feuilleter le livre de Sandra avec mon amoureux, là, religieusement, page par page, en disant, OK, oui, telle affaire, oui, telle affaire, la présence de fruits puis de légumes qui détonnent. Puis moi, je suis une fille de viande, par exemple. Mais moi, j'ai besoin d'avoir des légumes qui vont être funky à côté. Ouais. Fait que le livre de recettes a encore tellement sa place, je trouve, pour susciter l'imagination quand vient le temps de cuisiner.
Oui. Oui,
Internet
vraiment
a ses limites.
Puis honnêtement, nous, du moins, comment on l'utilise, c'est, ça devient des dates. T'sais, moi, j'étais avec mon amoureux, ça fait pas si longtemps que ça. Je suis pas la plus grande cuistot, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment le fun à décider de cuisiner ensemble puis d'essayer une nouvelle recette. T'sais. Fait que vous le retrouvez carrément partout, son livre. Vous pouvez pas la manquer, sa face est tue.
Exact, exactement.
Sandra, aujourd'hui, avec Alimentation Première, tu viens nous parler d'agneau. L'agneau, bon, qui est rentré chez Alimentation Première. Veux-tu nous rappeler l'adresse? Parce que là, maintenant, il y a carrément pignon sur rue. Là.
Exactement. Vous pouvez aller tester les produits chez Alimentation Première au 2828 4 Bourgeois, marché Terre et Mer. Puis maintenant, moi, à mon très grand bonheur, il y a de l'agneau du Québec. Parce que, tu sais, la fameuse mentalité de l'agneau, ça goûte la laine.
Oh,
puis moi, j'aime
drôle
pas ça, puis ouais, tout ça. Hey, l'agneau du Québec,
tantôt,
on n'est pas là.
Pas en tout?
Non, pas du tout.
Parce que pendant des années, l'agneau qui était le plus accessible, c'était l'agneau de la Nouvelle-Zélande.
Exact.
Puis ça goûtait la laine bouillie. Puis il y a tellement de monde au Québec qui n'ont pas aimé l'agneau à cause de ça. Puis l'agneau du Québec essayait de faire sa place. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ont donné une place. Moi, ma famille, c'est une famille qui achetait un demi-agneau par année.
Oh.
Fait que j'ai été élevée là-dedans à voir le gigot, les côtelettes, puis tout le kit. Puis tu me feras pas manger d'agneau d'ailleurs qu'ici. Mais tu sais, d'en trouver facilement, souvent, ça relève de la chance. Là, tu vas aller à l'épicerie, tu vas avoir de l'agneau du Québec haché, mais...
Mais pourquoi hein, le nôtre goûte pas à laine?
C'est une question de race.
Et de pâturage,
c'est une question,
je pense.
Hein? Oui, d'alimentation de race et d'âge d'abattage aussi. T'sais, on va faire quand même de l'agneau léger, de l'agneau lourd ici au Québec. Fait que c'est vraiment toute une question là, de complètement, c'est pas la même race de mouton comme telle. Ici au Québec, les agneaux, il y en a beaucoup. Pour avoir travaillé 16 ans de ma vie dans les abattoirs, là, de plus en plus d'agneaux, vraiment des petits producteurs d'agneaux. L'élevage des agneaux pour la viande, ça reste un élevage qui... Ça prend pas des grosses, grosses installations comme des vaches à bœuf. On est capable, c'est des animaux qui sont plus facilement malléables aussi. C'est un peu plus facile comme production comme telle.
travaillé 16 ans dans les abattages.
Ouais.
Arrête-toi.
Ouais. Je travaillais, en fait, avant de changer de carrière pour devenir influenceuse slash foodie slash etc.
Tout ça, là.
Ouais. Inspectrice au ministère de l'Agriculture, mais ma spécialisation, c'était vraiment les abattoirs et les fermes.
Audrey est traumatisée parce qu'elle, dans sa tête, un poulet sonnait dans une barquette de styrofoam, là.
Ouais, presque. Mais ça t'a pas... toi, ça t'a pas...
traumatisée.
Je voulais pas le demander autrement, mais...
Audrey, tu manges pas d'ailes de poulet parce qu'il y a des os.
Oui, 100%. Je peux peut-être pas la bonne publique.
Attends, là, parce que Véro te taquine, mais honnêtement, moi, j'adore la viande. J'aime ça faire de la boucherie.
Mais si je travaillais dans un abattoir...
Je suis allée dans un abattoir, puis j'ai trouvé ça rough quand même.
Mais c'est sûr que peut-être quand tu fais 16 ans de temps, ça devient moins rough là, au fur et à mesure. Mais justement, moi, mon travail, quand j'étais à l'abattoir, c'était de m'assurer que les animaux soient bien traités jusqu'à... qu'à leur arrivée à l'abattage et qu'ils soient bien abattus pour qu'il y ait le moins de souffrance possible. Fait que c'était vraiment ça, ma job.
Le côté éthique de la chose.
Le côté éthique, le côté bien-être animal. Ensuite de ça, est-ce que l'animal était malade? Est-ce qu'on peut le consommer dans des bonnes conditions? Fait que je me sentais vraiment utile dans mon métier là, en inspection.
Ça avait comme un pan positif.
Exactement.
En fait,
puis hey, quand on faisait des beaux bœufs, là, j'avais le goût d'un steak le soir.
Parce que je trouve le passage de travailler dans les abattages à devenir chef cocasse quand même.
Mais tu sais l'origine de tout. Puis je pense que ça t'amène un respect supplémentaire quand vient le temps de préparer ta viande.
Comme la chasse un peu.
Exactement.
Et surtout le fait d'essayer de valoriser toutes les pièces qu'il y a sur un animal. Pratiquement toutes se mangent, mais en tout cas, moi, je vais dire pratiquement toutes se mangent. Je reste avec des bémols sur certaines pièces, mais d'essayer d'aller manger la langue, les bajoux, faire quelque chose avec les os.
Pas de perte.
C'est ça. Mmh. Rentabiliser la vie de cet animal-là était complètement dédiée à la viande, bien, on va la maximiser.
Et l'honorer. Voilà.
Exact. Exactement, exactement.
Parlons-en des accords de saveur avec l'agneau. Je vois Anto qui est en train de goûter ta recette. J'y ai goûté aussi, c'est savoureux, ça n'a pas de bon sens, là. Qu'est-ce que tu nous as préparé ce matin, oui? Hey boy.
On est rendu...
On va prendre une autre bouchée.
Cet après-midi.
Parce que ça a l'air super
c'est
simple à faire.
C'est pour ça que tu pensais que c'était le matin.
C'est peut-être pour ça, oui. C'est simple, en tout cas.
Alors moi, ce que je vous ai préparé, c'est vraiment, je voulais mettre l'agneau de l'avant. Je ne l'ai pas mis dans un bain de sauce. Je voulais que vous goûtiez que ça ne goûte pas la laine comme telle, l'agneau du Québec. Je l'ai fait fumer. En fait, j'ai fait une partie, c'est le jarret de l'agneau, la souris de l'agneau, que j'ai fait fumer tranquillement avec un rub. Après ça, je l'ai mis en mode braisé pour qu'il vienne s'effilocher. Je l'ai tout simplement mis sur une tartine avec un pain au levain, que j'aime beaucoup. Et en dessous de ça, vous avez un petit beurre noisette fouetté au miel. Qui est une super belle découverte pour moi. Champignons marinés et un bon petit fromage québécois là, pour venir faire un contraste de saveur.
C'est très bon.
C'est délicieux, je sincèrement. Dois dire, là. Non, non, y a
ça goûte pas à laine, là, l'agneau.
Non, zéro open bar. Je pense qu'on pourrait dire la vérité si c'était le cas, mais honnêtement... Puis la façon dont on le vend chez Alimentation Première, est-il déjà cuit, mettons, sous vide, puis tout, ou on peut le faire comme on veut? C'est quoi les possibilités qu'on a?
Il y a plusieurs pièces chez Alimentation Première. Vous avez le carré, la côtelette et la souris, justement, le jarret, pour faire cette cette là.
J'ai une question qui rentre, Sandra, puis c'est drôle, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est pas niaiseux. On parlait tantôt de ton livre de recettes, entre autres, puis là, on parle de viande, puis il y a Fred qui nous dit, « Hey, j'ai une question pour Sandra. J'aimerais savoir si je fais des légumes en papillote ou je laisse reposer, mettons, une viande après cuisson. Le papier d'aluminium a deux côtés, un brillant puis un mat. De quel côté faut que je l'utilise? Ça change-tu quelque chose? »
Mon Dieu, la question, hein, aujourd'hui. Oh!
Ben oui, ça change quelque chose,
pour
semble-t-il.
Vrai? Arrête-toi!
Parce que le côté brillant, c'est supposé être à l'extérieur, et le côté mât, qui fait promener plus la chaleur, doit être à l'intérieur. Donc moi, le truc que je me donne pour me démélanger, c'est que l'extérieur doit vraiment briller. Tu sais, ta patate au four, là, quand tu fais ta patate, là.
Faut qu'elle brille dedans.
Faut qu'elle brille.
Hey, je pensais vraiment pas que ça changeait de quoi. Pour être honnête, là, je me suis jamais souciée de ça.
Le papier
de
toilette aussi, ça a un sens.
Ça, c'est un autre débat. Mais tu sais, en haut ou en bas?
Ben là, il y a juste une manière, c'est le papier vers toi.
Je suis d'accord. On finit l'émission, ça va. Je pense que c'est une affaire de filles versus gars.
Moi, j'ai une question aussi. Le Pâques vient de passer. Au Québec, on n'a pas cette tradition-là de manger de l'agneau à Pâques. Tant que ça, moi, dans ma famille, oui, puis dans celle à Véro aussi.
Ah, oui.
Mais le monde mange du jambon. Oui. Moi, j'invite les gens là, à sortir un peu. J'aime ça, le porc du Québec aussi, là. Mais essayez-le. De l'agneau à Pâques, le gigot avec de la menthe, avec de l'ail, miam, miam, miam.
OK, tes parents, ils ont la même recette que mes parents.
Ah, je pense que t'es ma sœur, en fait.
Oh, mon Dieu!
On l'annonce en primeur, moi et Véro, sommes
sœurs. Voilà, exactement.
Mais je trouve que c'est vraiment une bonne occasion aussi, à Pâques, là, ça vient de passer, là, vous le ferez l'année prochaine. Mais je trouve que c'est une viande qui est festive.
Oui.
Puis que c'est moins répandu au Québec. Puis les gens devraient prendre le temps de la redécouvrir.
Certainement. Puis même en steak, sur le barbecue.
C'est ça, je voulais te demander.
Le gigot d'agneau, là, tu sais, malgré les petites côtelettes, le gigot d'agneau, parce que coupé en steak, ça fonctionne très bien.
Parce que le gigot, ça peut être stressant sur la cuisson, la durée. Tu sais, ça prend des cendres. Puis tu veux pas manquer ta viande, là.
Comme un roast beef.
Exact. Tandis que quand tu arrives avec la côtelette ou le steak, c'est beaucoup plus facile de contrôler ta cuisson. Fait que je pense que c'est peut-être une belle manière de commencer à apprivoiser la cuisson de l'agneau?
100%, 100%. Puis on peut aller avec une sauce qui est super goûteuse. Tu sais, même un chimichurri ou une sauce à l'ail noir, là, comme j'ai dans mon livre. La recette est dans mon livre de souris d'agneau sauce à l'ail noir. Là. C'est vraiment un délice.
Puis mettons que je suis vraiment à poche au fourneau. Là. Tu me conseilles de dans le four, sur la poêle, sur le barbecue, qu'est-ce qui est le plus simple, mettons?
Bien, ça dépend de la cuisson que tu veux avoir. Comme test, si tu veux l'avoir effiloché comme ça, c'est au braisé au four. Ou dans le fumoir à long terme. Sinon, directement, grill sur le barbecue ou comme tu ferais un steak à la poêle arrosé avec du beurre. Même chose que si c'était du bœuf.
Sandra, ton passage est toujours très apprécié. Rappelle-nous l'adresse du Pignon sur rue d'Alimentation Première.
2828 4 Bourgeois, coin rue de l'Église. Et vous pouvez aller vraiment découvrir, oui, l'agneau, mais il y a plein d'autres beaux produits. Autant des produits de la mer, des produits de l'eau ou des produits tout simplement de viande rouge, viande blanche.
Les à côté aussi. Vous cherchez des sauces, vous cherchez des moutardes, vous cherchez des rillettes, des assaisonnements, là, vous allez repartir de là avec beaucoup, beaucoup de projets. Puis ramasser le livre à Sandra aussi, ça aussi, c'est des beaux projets pour le beau temps.
Ben oui, il est là.
Comment s'appelle ton livre?
C'est Barbecue Fumeur Plancha.
Simple, on nous le demandait par texto. Tu donnes fait à bien du monde, en tout cas. Il y a des gens qui nous envoient leurs recettes. J'avoue qu'on va se faire une petite pause, question d'aller prendre une bouchée. Sandra Plourde, merci énormément d'avoir été là. On s'en jase bientôt.
Merci beaucoup.
Gravel, confort.
Les voitures électriques ont la cote. C'est un bon moment pour magasiner. Il y a les subventions du fédéral qui sont là et le meilleur endroit pour y aller, c'est d'aller voir les concessionnaires de la Force Kia chez Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair. Ils ont d'ailleurs l'événement Merci Québec parce qu'en 2025, Kia est devenue la voiture, la marque automobile la plus vendue dans la région de Québec. Puis en ce moment, bien, vous obtenez jusqu'à 12 000 $ de rabais et subventions sur le Niro EV, jusqu'à 7 000 $ de subventions sur les tout nouveaux EV4 qui sont arrivés chez Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair. C'est le véhicule électrique le plus abordable au Canada. Il est au même prix que les véhicules à essence. Ça vaut la peine. Allez les voir, allez essayer le véhicule, allez poser vos questions pour savoir si ça répond vraiment à vos besoins. Vous allez avoir droit à un service hors pair. Allez faire votre tour chez Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair.
Chez La Tulipe,